c'est un livre essentiel pour comprendre le monde où nous sommes et où nous avons choisi de vivre.
L'expression de plaisir du texte est sinon ambiguë, disons incertaine à bien des égards.
Et vous croyez à l'écriture en tout cas maintenant?
Bien entendu.
Monsieur Zola est un de ces êtres dont on pourrait dire qu'il serait meilleur qu'il ne fût pas né.
Et je suis en train d'essayer de faire un livre, mais je ne suis pas du tout sûre de réussir à le terminer.
C'est notre petit secret.
Secret livré, Radio Campus, Paris.
Bonsoir, bienvenue dans ce troisième épisode de la deuxième saison de Secret livré, votre rendez-vous littéraire et social de Radio Campus Paris. Je m'appelle Claire, je suis votre hôte ce soir, et ensemble on va découvrir, pendant un peu moins d'une heure, un monde merveilleux, en prenant pour point d'ancrage un livre, comme à chaque fois. Le livre de cet épisode n'est pas un ouvrage de fiction, comme j'ai pu les étudier avant, il s'agit de mémoires, celle de l'artiste Suzanne Rotolo, une artiste qui a grandi à Greenwich Village dans les années 60, à l'époque où le quartier de New York était plus qu'un lieu, plus qu'un point sur une carte. C'était tout un symbole, creuset de la culture folk de l'époque, berceau de lutte pour les droits civiques, contre le nucléaire et pour l'inclusivité et l'égalité en général. Vous ne connaissez peut-être pas son nom, mais vous avez déjà sans doute vu, tous et toutes, une photo d'elle. L'écrivaine dont je vais vous parler aujourd'hui figure sur la couverture de l'album Free Wheeling de Bob Dylan, paru en 1963, alors que la carrière du chanteur commençait à exploser au niveau national. Sur la pochette, on le voit marchant bras dessous avec une femme, sa petite amie de l'époque, emmitouflée dans un gros manteau vert. Et cette femme, elle n'est autre que Suze, diminutif affectueux de Suzanne. Suzanne Rotolo, donc, celle dont on va parler aujourd'hui et qui a intitulé ses mémoires « Free Wheeling Time » en hommage au titre de Dylan. Les deux se rencontrent en 1961, lors d'un concert donné à New York, au beau milieu du grand renouveau folk de Greenwich Village. Lui, jeune musicien de talent, commençait à se faire repérer à droite à gauche dans tous les bouis-bouis qui voyaient défiler, à l'époque, quantité d'artistes du même genre. Elle, militante dans des groupes de lutte pour les droits civiques, fille d'immigrés italiens de classe au mieux moyenne, eh bien, participait à toutes les manifestations possibles pour faire avancer les causes dans lesquelles elle croyait. Paf, c'est l'amour fou. Les deux s'installent rapidement dans un petit appartement pourri du « village », comme on l'appelle alors. Leur idylle durera environ 4 ans. 4 ans qui coïncident avec l'ascension météorique de Dylan. La nouvelle renommée du chanteur affecte le jeune homme, mais aussi la jeune femme, qui éclate finalement sous la pression et quitte celui qu'elle aura tant aimé, parce qu'elle ne sait plus comment, parce qu'elle ne sait plus qui elle est dans l'histoire.
But I wish there was something you would... Do I say, try and make me change my mind and stay. But we never did too much talking anyway. But don't think twice, it's all right.
Pendant des années, Suzanne Rotolo s'est refusé toute allusion à Dylan. Un sacrifice de mémoire qu'il lui a fallu payer pour préserver son identité à elle et retrouver son propre pronom, comme elle dit. Elle fait allusion dans ce passage d'ailleurs à cette caractéristique de la langue qui fait prévaloir, par défaut on le sait, le masculin sur le féminin et qui fait écho à une réalité bien tangible et, dans son expérience à elle, notamment dans le petit monde de la folk de l'époque. Il y avait une certaine attitude, dit-elle, envers les petites amies des musiciens. Elles étaient appelées « chicks », poulette en français serait une traduction, mais ça sonne un peu film avec Pierre Richard, ou bien meuf, enfin vous voyez l'idée. Elle continue, et je ne pouvais pas le tolérer. C'était avant l'apparition de tout un vocabulaire féministe, alors je n'avais pas de cadre théorique pour formuler mes ressentis, mais ils étaient très forts. J'avais l'impression de ne pas être une personne à part entière. Bob était au centre de l'attention, et c'était censé me valider, moi aussi. Just one of your many toys. You don't own me. Le livre de Rotolo raconte avec une très grande intelligence et une très grande poésie l'époque qu'il a construite, et avec elle son lot de joie et de déception, mais aussi d'angoisse. Car Suzanne vient d'une famille ouvertement communiste, à une époque encore marquée par le maccartisme et la chasse aux rouges qui sévit, vous le savez, dans l'Amérique d'après-guerre. Elle est une femme extraordinaire, je pense, qui mérite qu'on parle d'elle isolément de Dylan. Mais sa relation fait partie du tissu de son identité, bien sûr, et la façon dont elle réfléchit sur le tourbillon de la célébrité, sur ses effets sur l'entourage de l'artiste et les répercussions sur sa propre vie, eh bien, tout ça, c'est aussi important. Elle a été, pendant quelques années, la copine de, comme l'ont été beaucoup de femmes à travers l'histoire, tentant de s'approprier une scène qui ne semblait leur offrir que des seconds rôles. Et surtout, le livre est une merveilleuse fenêtre sur le Greenwich Village mythique des années 60, sur les luttes intergénérationnelles de la gauche communiste, sur la fabrique des contre-cultures, autant de thèmes que j'aurai le plaisir d'aborder au cours de cette émission.
Oh, I'm sailing away, my own true love. I'm sailing away in the morning. Is there something I can send you from across the sea? From the place that I'll be landing. No, there's nothing you can send me, my own true love. There's nothing I'm wishing to be owning. Just to carry yourself back to me unspoiled. From across that lonesome ocean. Ah, but I just thought you might want something fine, made of silver or of golden, either from the mountains of Madrid or from the coast of Barcelona. But if I had the stars of the darkest night and the diamonds from the deepest ocean, I'd forsake them all for your sweet kiss. For that's all I'm wishing to be owning. But I might be gone a long old time, and it's only that I'm asking. Is there something I can send you to remember me by, to make your time more easy passing? Oh, how can you ask me again? It only brings me sorrow. This same thing I would want today, I would want again tomorrow. Oh, I got a letter on a lonesome day. It was from her ship, it's sailing, saying I don't know when I'll be coming back again. It depends on how I'm feeling. If you, my love, must think that away, I'm sure your mind is a roaming. I'm sure your thoughts are not with me, but with the country to where you're going. So take heed of the western winds. Take heed of the stormy weather. And yes, there's something you can send back to me. Spanish boots are Spanish leather.
Alors pour la petite anecdote, la chanson que vous venez juste d'entendre s'intitule Boots of Spanish Leather. Elle est de Bob Dylan et elle a été inspirée par la personne dont on parle aujourd'hui, Suzanne Rotolo. Elle a été inspirée de leur relation quand Suzanne est partie en Italie, pas en Espagne, hein, mais la chanson est une interprétation de la réalité. Suzanne a demandé à Bob à l'époque, est-ce que tu veux que je te ramène quelque chose de mon voyage? Est-ce que tu veux que je te ramène quelque chose? Et lui répondait, non, 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 je veux que tu rentres parce que je t'aime.
Secret livré, Radio Campus, Paris.
Je suis née à Sunnyside, dans le Queens, en face de Manhattan, de l'autre côté du pont, commence Rotolo dans le premier chapitre de ses mémoires. En vérité, mon vrai lieu de naissance a été l'hôpital juif de Brooklyn, où un docteur compatissant décidait de prendre soin des jeunes femmes communistes sans argent qui commençaient à fonder leur famille. Le père de Suzanne Rotolo est artiste, mais il ne parvient pas à subvenir aux besoins de sa famille grâce à sa peinture seule. Il travaille donc dans diverses usines, rejoignant à chaque fois les organisations syndicales sur place ou les créant lui-même. Du coup, commente-t-elle avec humour, il était renvoyé très souvent et se mettait en grève encore plus souvent. À l'époque, les conditions de travail sont pitoyables. Il fallait en effet compter sur le travail des syndicats pour assurer aux travailleurs des journées de 8 heures et éliminer le travail des enfants. Des vagues successives d'immigration européenne ont en effet amené courant 19e des travailleurs irlandais, puis italiens entre autres aux États-Unis, qui en plus de ces conditions de travail difficiles, ont dû et continuent à l'époque de devoir faire face aux injures xénophobes des locaux, qui d'ailleurs oublient eux-mêmes bien vite qu'ils ne sont d'authentiques Américains que depuis un siècle. Alors, faisons un point un peu sur l'immigration italienne et rappelons que les Italiens immigrés aux États-Unis sont pour une grande partie d'entre eux arrivés après la guerre de sécession, notamment dans les États du Sud comme la Louisiane, qui pâtissait alors de la libération des esclaves économiquement. La main-d'œuvre gratuite n'était plus gratuite, il fallait de nouveaux travailleurs dans les champs de coton pour remplumer les rangs. Les Italiens ont posé pied sur le sol sudiste à cette époque-là, au plus grand soulagement des propriétaires blancs. Car, en plus de fournir de la main-d'œuvre peu chère, cette nouvelle population est blanche. Elle permettra sans doute, pense-t-on alors, d'asseoir la supériorité numérale et donc systématique de la blancheur sur la noirceur, perçue comme mauvaise à l'époque, on le sait. Cette nouvelle population permettra en fait de consolider donc les Jim Crow Laws, les lois qui théorisent et instiguent la ségrégation raciale de l'époque. Mais les Italiens en fait restent entre eux. Ils ne se mélangent pas aux autres blancs, pire! Ils s'installent près des Afro-Américains, se liant d'amitié avec eux et les incluant dans leur quotidien. Commerce, divertissement, tout ça. Les mariages intercommunautaires d'ailleurs sont la goutte d'eau qui fait déborder le vase pour ceux qui considèrent que maintenant, eh bien, ce sont eux les vrais blancs, les Louisianais d'origine. On connaissait déjà au XIXe siècle les horribles unes de journaux qui propageaient des mensonges sur les Noirs. Si un lynchage avait lieu, par exemple, on titrait « Un Noir agressif a été lynché en public ». On justifiait ainsi le crime. Les accusations envers les ex-esclaves étaient sans fondement. On criait au viol si un homme noir bousculait par exemple, par accident, une femme blanche dans la rue. Et cela, c'est sans compter tous les autres assassinats perpétrés sans même l'effort d'un mobile. Alors, quand on commence à se rendre compte que l'immigration italienne ne compte pas s'intégrer proprement au groupe des Américains blancs, se met alors en place une nouvelle hiérarchie de la blancheur. Il y a les très blancs, puis les moins blancs, qui tendent vers le noir donc, vers le bas de la chaîne de valeur. Et les moins blancs, eh bien ce sont les Italiens. Et ce n'est pas qu'au sud d'ailleurs. Le journal new-yorkais, au nord donc, le Time, publie en 1880 un article qui décrit les Italiens comme, je cite, « des chaînons sur une lignée non pas d'évolution, mais de dégénérescence ». Parce qu'ils sont pauvres, et pour une grande partie non éduqués, on prive les immigrés italiens de leur humanité. C'est un phénomène commun d'ailleurs. C'est pire pour les Italiens du Sud ou de Sicile, qui sont considérés eux-mêmes au sein de leur propre pays comme une classe inférieure de la population, des sous-hommes en quelque sorte. Les stéréotypes sur les Italiens, au tournant du XXe siècle, sont donc les suivants. Ils sont rusés, ils sont menteurs, ils sont faux et criminels par nature. Le plus intéressant peut-être dans tout ça, c'est qu'en 1891 a lieu un lynchage à la Nouvelle-Orléans, en Louisiane, qui provoque la mort violente de 11 Italiens, suspectés à l'époque de complicité dans la mort du chef de police local, David Hennessy. Ils sont innocents bien sûr, mais cela ne compte jamais. Le président de l'époque, Benjamin Harrison, prend alors un peu peur des conséquences diplomatiques de l'incident, si on peut l'appeler comme ça, et afin d'apaiser l'Italie, il décide de célébrer un an plus tard, en 1892, la journée nationale de Christophe Colomb, ce grand explorateur italien qui, vous le savez, a découvert l'Amérique. Il intègre ainsi l'Italie dans le tissu même de la mythologie fondatrice américaine et permet ainsi d'injecter un peu de légitimité à la présence de ce peuple sur le territoire. Bien sûr, que Christophe Colomb n'ait jamais posé pied à New York et qu'il ait vécu au plus loin en Espagne ne l'empêche pas d'être adoubé le premier immigré pour les besoins de cette nouvelle histoire, de cette nouvelle narration faite de toutes pièces. Les stéréotypes ont la peau dure cependant, la persécution des Italiens continue tout au long du XXe siècle, période qui voit grandir la petite Suzanne Rotolo. Rotolo naît de deux parents italiens, donc issus de cette immigration, Maria Pezzati et Joachim Rotolo. Lui arrive aux États-Unis en 1914 quand il a 2 ans et il s'installe avec sa famille à Brooklyn. En grandissant, conscient du poids que son identité italienne est susceptible de peser sur sa vie personnelle et professionnelle, il se fait appeler Pete, version anglicisée de son second prénom Pietro. Joachim est un artiste talentueux et il obtient même une bourse d'études pour la Pratt Institute, fait rare d'ailleurs pour le fils d'immigrés italiens. Il grandit dans le respect du travail bien fait, avec la valeur de l'effort, comme tous ceux à qui l'on fait comprendre qu'il faudra travailler 2 fois plus pour être traité moitié moins bien. Pendant la Grande Dépression américaine, qui commence au crépuscule des années 20, il découvre les écrits de John Reed, journaliste et militant américain. Reed a voyagé à Petrograd au moment de la Révolution russe de 1917, Petrograd d'ailleurs vous le savez est devenu Saint-Pétersbourg maintenant, et cette révolution donc a vu le tsarisme remplacé par un régime communiste léniniste. Enthousiasmé par ce qu'il a vu, John Reed écrit son ouvrage le plus connu, 10 jours qui ébranlèrent le monde, publié en 1919, ouvrage qui raconte la prise de pouvoir par les bolcheviks. Pour l'anecdote, il est à ce jour le seul américain à être enterré au Kremlin à Moscou, bien qu'ayant été entre-temps répudié par Staline, qui lui n'apprécie pas beaucoup que son propre rôle dans la révolution n'ait pas été plus célébré, s'étant fait damer le pion par Trotsky. Joachim, ou Pete Rotolo, lui, eh bien, il apprécie John Reed, et comme de nombreux Américains à l'époque, il rejoint un groupe communiste, lui c'est tout simplement donc le John Reed Club. Ces associations faisaient d'ailleurs très peur aux antisocialistes de l'époque, qui pensaient bien sûr que les rouges se cachaient partout. Bob Dylan d'ailleurs s'en moque dans une chanson, parodiant ces fameuses associations. Il inverse le concept et décrit lui le quotidien paranoïaque d'un membre de la John Birch Society, du nom de John Birch, donc militant et missionnaire protestant, tué par des communistes chinois en 1945, à la fin de la Seconde Guerre mondiale donc. John Birch, depuis, est considéré, par certains, comme la première victime politique de la guerre froide. Les années 50 étaient une époque très répressive et politiquement manichéenne. Il n'y avait pas de zone grise. L'idéal, c'était de se conformer à la norme. Tout le reste était suspect. Joseph McCarthy, le sénateur républicain anticommuniste du Wisconsin, dominait les médias et répandait des comptes remplis de rouge cachés partout, prêts à détruire l'American Way of Life. Les communistes étaient, selon lui, non seulement au sein du gouvernement, mais aussi dans la salle de classe, dans les syndicats, écrivant des chansons, faisant des films. Un rouge pouvait très bien être le professeur de piano de votre enfant. Rotolo raconte ceci dans son livre, et Bob Dylan, dans sa chanson John Birch Paranoid Blues, le protagoniste de Bob Dylan, cherche en effet les communistes partout, sous son lit, dans sa salle de bain, dans sa télé, avant de perdre complètement la tête et de voir le mal partout, même dans les rayures rouges du drapeau américain, cédant à la paranoïa totale pour le grand plaisir de ceux qui écoutent la chanson.
Well, I looked underneath everything behind a chair. Looking for them reds everywhere. I even looked up my chimney hole. Looked out deep inside my toilet bowl. They got away. When I was home alone, I started to sweat. I figured they was inside my TV set. I peeked behind the picture frame. Got a shock from my feet right up to my brain. Them reds caused it. I know they did, them hardcore ones. Well, I quit my job so I could work all alone, and I changed my name to Sherlock Holmes. Followed some clues in my detective bag, I discovered there was red straps on the American flag. Oh, Betsy Ross.
La peur, eh bien, elle ne fait pas rire car elle est bien réelle. C'est une peur viscérale liée à la peur de la bombe atomique. Rotolo raconte d'ailleurs avoir vécu avec cette peur au ventre. Quand ses parents se rencontrent, Joachim dit à Maria, sa future épouse, de façon très poétique « Je crois qu'il faut que j'installe des piquets de grève autour de toi ». Ils sont amoureux, il faut leur pardonner ce lyrisme. Pour celles et ceux qui n'auraient pas la référence, un piquet de grève, eh bien, c'est une ligne qu'on ne doit pas dépasser lors d'une manifestation. Pour faire pression sur un établissement commercial, par exemple, on installe des piquets de grève devant la porte et les clients qui la traversent pour faire leurs courses communiquent donc le message suivant « Je me fiche de vos demandes, vive le capitalisme !» Installer des piquets de grève autour de Maria, c'est s'assurer donc que personne ne traversera cette ligne métaphorique et ne viendra lui piquer sa femme. Bon bref, ils sont amoureux, ils sont heureux, mais Rotolo raconte dans son livre. Le FBI frappait aux portes, écoutait les appels téléphoniques, se rendait sur les lieux de travail des gens et laissait toujours derrière eux une traînée de doutes et de suspicions. L'emprisonnement et l'exécution des Rosenberg avaient rendu les enfants de parents communistes incapables de comprendre ce qui se passait. Ça leur faisait craindre le pire pour leurs propres parents. Je sais que c'était mon cas en tout cas. Je regardais les photos des enfants Rosenberg dans les journaux, j'étais paralysée par l'angoisse, une angoisse pour leur vie comme pour la mienne. Car elle-même se définit comme une « red diaper baby », en français littéralement ça veut dire « un bébé avec une couche rouge », ce qui veut dire bien sûr un enfant issu d'un couple communiste. Une identité qui définit sa relation avec les autres pendant des années, la façon dont elle est perçue aussi aux États-Unis, bien qu'elle-même ait des doutes. Car vers la fin de son lycée, Suzanne Rotolo découvre par exemple divers écrits, comme l'avait fait son père d'ailleurs au moment de lire John Reed. Mais ces écrits-là, eux, sont ceux de Gide, d'Ignacio Silone, de Richard Wright, compilés par Arthur Koestler dans son recueil intitulé « Le Dieu des ténèbres ». Le recueil est un ensemble de témoignages qui explique pourquoi ces penseurs avaient quitté le Parti communiste. Leur expérience du régime stalinien et de la guerre froide, notamment, leur avait tous laissé un goût profondément amer pour les idéaux qu'ils considéraient donc alors comme bafoués. Ayant grandi dans une famille affichant fièrement son affiliation au Parti, cette découverte déstabilise Rotolo qui affirme, je cite, « Le fait que ces intellectuels respectés reniaient publiquement leurs croyances passées était un vrai coup dur pour la gauche. Le Dieu des ténèbres avait été largement congratulé et célébré par les anticommunistes, tant et si bien que j'avais la sensation en le lisant de trahir mes aînés. Je le lisais donc en secret. » Durant cette époque de profond anticommunisme, on ne pouvait pas être neutre, il fallait être d'un côté ou de l'autre. Du moins publiquement, parce que derrière porte close, les aînés aussi lisaient et parlaient du livre.
We're living in a country that's the finest place on earth. But some folks don't appreciate this land that gave them birth. I hear that up in Washington they're having an awful fuss. Cause communists and spies were making monkeys out of us. The bureaus and departments have been busy night and day. They're figuring out just how we gave our secrets all away. And Congress has appointed a committee, so they said, to find out who's American and who's a low-down red. They call them up to Washington to speak for Uncle Sam. But
but when they ask them what they are, they shut up like a clam. I wish they'd take and put me on the witness stand today. I'd yell so loud old Stalin could hear me all the way.
I'm no communist, I'll tell you that right now. I believe a man should own his own house and car and cow.
I like this private ownership, I want to be left alone.
Let the government run its business and let me run my own.
Our government is bigger than it ever was today. The more they hire to work for it, the more they have to pay. Our public servants should be proud and honest, you would think, instead of taking bribes and dressing up their wives in mink. The taxes keep on going up, of that there is no doubt, but still they just can't take it in as fast as they dish it out. Our national debt is a monster size and growing every day. Our children's children, still unborn, are gonna have to pay. Our dollar used to be the soundest money on this earth, but now $2 won't even buy a good old dollar's worth. Unless we stop inflation and take care of what we've got, the communists may win the fight and never fire a shot.
I'm no communist, I'll tell you that right now. I believe a man should own his own house and bar and cow.
I like this private ownership, I want to be left alone.
Let the government run its business and let me run my own.
Secret livré, Radio Campus, Paris.
Suzanne Rotolo naît donc dans une famille ouvertement communiste, enfin aussi ouvertement qu'on pouvait l'être à l'époque sans risquer de se faire tuer, même si elle a elle-même certains doutes sur ses propres convictions. Après tout, c'est l'apanage de toute jeune personne trouvant son identité, et elle est encore jeune. Cela n'empêche que Rotolo hérite de ses parents un sens du militantisme et de la noble cause. En gros, penser et lire, c'est bien, mais il faut agir. Après la mort tragique de son père, suite à une crise cardiaque, Suzanne poursuit le travail et s'engage aux côtés de différentes associations, comme par exemple le Congrès pour l'égalité raciale, abrégé en CORE en anglais. L'association, fondée en 1942 à Chicago, déclare que sa mission est de, je cite, « garantir l'égalité de toute personne, sans distinction de race, foi, genre, âge, handicap, orientation sexuelle ou d'héritage religieux ou ethnique ». Le mouvement a notamment été fondé par James L. Farmer, homme politique afro-américain, théoricien entre autres d'une forme d'action non violente, ainsi que par George Hauser et Bernice Fisher, surnommée la « marraine des sit-ins », cette technique utilisée pour lutter contre la ségrégation. On en a parlé plus tôt dans l'émission, mais la ségrégation est bien en place aux États-Unis jusqu'aux années 70, et les personnes que je viens de mentionner font ce qui est en leur pouvoir pour la démanteler morceau par morceau. En gros, l'esclavage est aboli au sortir de la guerre civile, autrement appelée guerre de sécession. C'est le 13e amendement à la Constitution américaine du 6 décembre 1865, plébiscité par le président Lincoln. S'en est suivi le 14e amendement qui, lui, accorde la citoyenneté américaine à toute personne née ou naturalisée aux États-Unis, interdisant d'ailleurs toute restriction de ce droit, évidemment étant donné l'historique. Puis c'est au tour du 15e amendement de solidifier ce passage à une nouvelle ère avec le droit de vote accordé à tout citoyen américain. Tout est bien qui finit bien donc, mais en 1877, les Jim Crow Laws, cet ensemble de lois racistes, sont promulguées. Ces lois encadrent la longue période de ségrégation raciale aux États-Unis qui ne prend fin légalement qu'en 1964 avec le passage du Civil Rights Act. Alors, le but affiché des Jim Crow Laws est simplement, en surface, de séparer les espaces, puisque leur sous-titre, ou slogan si vous voulez, est le suivant « Separate but equal », séparé mais égaux. Les lieux publics sont donc scindés en deux. D'un côté, l'espace réservé aux blancs, et de l'autre, l'espace attribué aux gens de couleur, the colored, comme on les appelle. Ce sont donc les écoles, les hôpitaux, les transports publics, les cimetières et tous les autres lieux d'usage commun qui subissent cette séparation. Mais surtout, dans la pratique, eh bien, vous vous en doutez, la séparation n'est pas équitable. Car l'objectif implicite de ces lois, c'est de compliquer l'accès aux services les plus basiques aux personnes de couleur, les privant au mieux à l'usure de leur liberté, et des droits fondamentaux dont il devrait pouvoir profiter en tant que citoyen américain. Vous avez toutes et tous sans doute en tête cette célèbre photographie prise par Elliot Erwitt où l'on voit deux éviers contre un mur. L'important, la petite affichette « white », un bel évier blanc, plutôt neuf, avec un petit meuble en dessous pour cacher les tuyauteries. L'autre évier, posé à la va-vite à 1 mètre à sa droite, à l'extrémité d'un bout de tuyau apparent, rouillé, à peine fonctionnel, eh bien lui, il trône sous un petit panneau « colored ». Cet exemple illustre la lutte lente et compliquée, « the uphill battle », comme on dit en anglais, une course à contre-courant, qu'il faut mener contre les oppressions raciales systémiques de l'époque. Les sit-ins que je mentionnais plus tôt sont un des moyens trouvés par les militants pour faire la différence. J'en parlais un peu plus tôt dans l'émission. Exemple à Greensboro, en Caroline du Nord. On est en février 1960, les Noirs se voient refuser le service au comptoir dans la célèbre chaîne de magasins Woolworth. L'établissement est alors spécialisé dans la distribution à prise unique. D'ailleurs, pour les fans de la version américaine de The Office, la chaîne a été fondée à Utica, dans l'état de New York. Le même Utica que la filiale où est envoyé Jim, celle où il rencontre Karen, jouée par Rashida Jones, et le même Utica que Dwight propose de brûler, secondé par Michael.
I'm taking Stanley.
And we will burn Utica to the ground.
If you so much as harm a hair on Stanley's head, we will burn Utica to the ground.
Quand Clarence Harris, le gérant de Woolworth de Greensboro, refuse de servir 4 étudiants noirs leur café, ils ne proposent pas de brûler le magasin. Eux, pas lui. Ils reviennent, eux, pas lui, simplement, jour après jour, commander un café en paix et en silence. Alors au départ, évidemment, rien ne change, rien ne bouge. Ce ne sont pas 4 clients silencieusement mécontents qui gênent Monsieur Harris. En revanche, ils attirent l'attention des médias. Bientôt, le mouvement se transforme en boycott. Le 25 juillet, 6 mois après la première commande de café non servie, le magasin recense des pertes s'élevant à plus de 200 000 $ de l'époque. Pour vous donner une idée, ça représente environ 1,7 million de dollars actuels. Monsieur Harris, alors, eh bien, est forcé de concéder victoire. Il demande d'ailleurs piteusement à 4 de ses propres employés noirs de retirer leur uniforme et d'aller se commander un café au comptoir en faisant mine qu'il passait dans le coin par hasard. Presque drôle, si ce n'était pas pathétique. Mais enfin, justice fut servie, au moins à Greensboro, au moins dans ce Woolworth.
But 100 years later, the Negro still is not free. 100 years later, the life of the Negro is still sadly crippled by the manacles of segregation and the chains of discrimination.
Dans Free Willing Time, les mémoires de Rotolo, on peut voir un tract d'ailleurs sur une des pages distribuées à l'occasion de cette manifestation, car Suzanne a elle-même participé à de nombreux événements similaires, et même organisé des grèves, allant jusqu'à rencontrer Eleanor Roosevelt, qui la félicite de son engagement civique. L'époque est marquée par des luttes politiques, sociales et raciales qui secouent les fondations du pays et divisent les rangs. Et Rotolo se trouve à l'intersection de beaucoup d'entre elles. Elle se rappelle dans ses mémoires surtout d'un événement en particulier qui a cristallisé le chaos de sa génération.
My fellow Americans, ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country.
Le 22 novembre 1963, alors que Suzanne et Bob, Dylan, sont ensemble dans leur appartement de Manhattan en compagnie de Carla, la grande sœur de Suzanne, la télé diffuse des images pour le moins inattendues, dont les conséquences se font encore ressentir aujourd'hui dans la psyché américaine.
Several shots were fired as President Kennedy's motorcade passed through downtown Dallas. Crowds screamed and lay down on the grass as the motorcade went by. It was not known if the shots were aimed at the president. Repeat, it is not known if the shots were aimed at the president.
Alors que le président John Fitzgerald Kennedy est en visite à Dallas, il est assassiné par balle dans sa décapotable. À côté de lui, son épouse Jackie se jette sur l'arrière de la voiture pour récupérer le morceau de crâne de John qui s'est envolé après l'impact. Le temps se fige et l'Amérique retient son souffle. Selon Rotolo, le meurtre de Kennedy incarne l'incertitude, le chaos sans forme, comme elle dit, de l'époque. Elle raconte « Nous étions incrédules et choqués. Cela ne nous semblait tout simplement pas concevable qu'à notre époque, un président puisse être assassiné. Les jours suivants, Bobby, Carla et moi étions assis sur le canapé miteux de notre appartement sur l'avenue B. Nous fumions des cigarettes devant l'écran noir et blanc de télévision. On a vu Lee Harvey Oswald, l'assassin présumé du président, se faire interpeller. Et puis, on l'a vu, en live, se faire tuer sur une chaîne nationale. » Bob, Suzanne et sa sœur sont incapables de quitter l'écran des yeux, et ils ne sont pas les seuls. La nation tout entière est entrée dans un état de choc que même la crise des missiles de Cuba en 62 n'avait pas provoqué en Amérique. On se demandait si ça allait s'arrêter un jour. La spéculation sans fin, les enterrements sans fin, les questions sans fin, le deuil sans fin, dans ce monde tourné sur la tête et rempli de peur.
Secret livré. Alors, on a parlé de l'enfance de Suzanne Rotolo, on a parlé de luttes qui l'animent et qui animent ses compatriotes à l'époque, mais il y a un endroit où un groupe de gens pense incarner ces luttes plus que tous les autres. Cet endroit, c'est Greenwich Village, comme on dit. Alors, ne nous mentons pas, bien que les loyers soient accessibles et que l'esprit qui y plane soit libéré, on trouve pas mal de gens blancs à Greenwich Village, pas mal de gens un peu bohèmes qui ne font pas toujours nécessairement cohabiter leur amour pour les chants révolutionnaires avec la vraie révolution. Quoi qu'il en soit, le lieu est mythique et rempli de points de repère pour tous les amoureux de l'histoire des 60s. Par exemple, une des rues les plus connues dans Greenwich Village, c'était Bleecker Street,
rue qui a quand même donné son nom à une chanson du duo Simon et Garfunkel, qu'on écoute tout de suite.
Fox rolling in off the East River bank, like a shroud. It covers Bleecker Street, fills the alleys where men sleep.
La rue est présente dans d'autres chansons d'autres artistes, comme par exemple le titre Sharon de l'immense Joni Mitchell.
There's a gypsy down on Bleecker Street. I wanted to see her as a kind of joke, and she lit a candle for my love lock, and 18 bucks went up in smoke.
Dans Chronicles, les mémoires de Bob Dylan, le musicien y décrit l'atmosphère de Greenwich Village dans les années 60. Des loyers abordables donc, un certain renouveau de l'économie après la Seconde Guerre mondiale, bien que la période fût teintée évidemment par le McCarthyisme qu'on a évoqué, et la chasse aux sorcières qui visait à dénoncer les communistes présents dans les rangs même des citoyens américains. Eh bien, tout cela, les côtés positifs, j'entends, eh bien tout cela faisait de cet endroit un microcosme prompt à accepter les laissés pour compte, les bizarres, les exclus, et sans doute, celles et ceux qui regroupent tous ces traits de caractère à la fois, bien souvent, les artistes. Dans les années 50, les artistes étaient pour la plupart communistes, souvent radicaux. Ils s'opposaient donc souvent aux forces armées de la police, tant et si bien qu'une loi, passée au début des années 60, leur interdisait de chanter. Oui, vous avez bien entendu, une loi qui dit qu'on ne peut pas chanter devant la police pendant des manifestations. On comprend bien sûr qu'il ne s'agit pas de musique, mais du contenu. C'est ça qui posait problème. L'État avait donc finalement bien compris le pouvoir des chansons, tout comme Woody Guthrie l'avait fait avant eux. Woody Guthrie étant un chanteur et musicien légendaire qui avait écrit sur sa guitare, pour l'anecdote, « This machine kills fascists, cette machine tue les fachos ». Dans un documentaire de la réalisatrice Laura Archibald, Greenwich Village Music That Defined a Generation, on entend notamment Pete Seeger, un chanteur de l'époque, s'exprimer sur les liens très forts qui unissaient les musiciens de Greenwich Village à une trajectoire commune, intimement liée aux questions politiques de l'époque. Parce qu'en fait, dans les années 60, la musique populaire eh bien, se trouve entre Elvis et les Beatles, tandis que le mouvement de la Beat Generation des années 50, un peu avant, avait créé dans le village, comme on l'appelle quand on fait genre qu'on s'y connaît, des tas de petites salles de concert, des petits boui-boui, où finalement il faisait bon faire de l'art, même quand on n'était pas très doué. Cela dit, ne vous y trompez pas, Dave Van Ronk, un chanteur de l'époque, affirme sans détour qu'il n'y avait aucune sorte de fraternité entre les deux genres, j'entends par là la Beat Generation et les Folkies, qui ne s'aimaient finalement, en fait, pas beaucoup. Les poètes beat avaient en effet une esthétique beaucoup plus littéraire, beaucoup moins littérale, moins illustrative que les artistes folk qui parlent, eux, de soldats envoyés au Vietnam en termes souvent tire-larme.
Where have all the flowers gone? Long time passing. Where have all the flowers gone? Long time ago, where have all the flowers gone?
Dans cette chanson, par exemple, on entend le trio très connu de Peter, Paul et Mary se demander où sont passées les fleurs, où sont passés les soldats. Réponse, ils sont tous morts. Un message qui laisse peu de place au doute et surtout peu de place à l'interprétation, surtout comparé aux écrits de poètes comme Allen Ginsberg, qui faisait partie, lui, de la Beat Generation, qui écrit plutôt, lui, l'angoisse de faire ses courses au supermarché dans son poème A Supermarket in California. Écoutez plutôt.
Aisles full of husbands, wives in the avocados, babies in the tomatoes, and you, Garcia Lorca, what were you doing down by the watermelons? I saw you, Walt Whitman, childless, lonely old grubber, poking among the meats in the refrigerator and eyeing the grocery boys. I heard you asking questions of each. Who killed the pork chops? What price bananas? Are you my angel?
Alors bien sûr, je grossis le trait, hein. Les styles étaient tout simplement différents. Mais la folk a quand même l'apanage du premier degré dans bien des cas. Cela ne veut pas dire qu'elle manque de poésie ou qu'elle est bébête, mais plutôt qu'elle accepte à bras ouverts le sens, sans avoir besoin de le déconstruire sans cesse. Par exemple, pour prendre des termes imagés, si la Beat Generation était une toile de Sonia Delaunay, imaginez que les artistes folk étaient plutôt des aquarelles de Marie Laurencin. Alors la musique folk de l'époque ne sort pas de nulle part, évidemment. Rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme, n'est-ce pas? Et c'est pareil en art, la musique s'inspire d'une longue tradition préexistante qui voit notamment à nouveau la lumière du jour grâce à une anthologie compilée et publiée par Harry Smith, un catalogue contenant des chansons d'avant-guerre notamment. On redécouvre aussi à l'époque des artistes comme Mississippi John Hurt dans le sud américain. Lui, il joue comme il a toujours joué, c'est-à-dire avec un talent exceptionnel, sans savoir exactement d'où lui vient cette nouvelle vague d'intérêt, surtout par une bande de jeunes blancs de New York. On écoute tout de suite un extrait de Mississippi John Hurt et sa chanson You Gotta Walk That Lonesome Valley. You gotta walk that lonesome valley. Well, you gotta walk it for yourself. Ain't nobody here. Walk the red valley for yourself. My mother had to walk that lonesome valley. Well, she had to walk it for herself. Is nobody here could walk it for her. Yeah, she had to walk. Alors les artistes de l'époque gravitent quand même autour des mêmes centres d'intérêt, c'est une petite bande hein, finalement, et des mêmes références. C'est aussi vrai pour leur lutte et pour leur mépris. En gros, le top 50, c'est l'ennemi. Passer à la radio, devenir populaire, eh ben, ça revient un peu à vendre son âme au diable. Et pas celui qui permet de jouer de la guitare comme un dieu, comme Tommy Johnson dans le film Oh Brother.
Well, I had to be at that there crossroads last midnight. Sell my soul to the devil.
Well, ain't it a small world, spiritually speaking? Pete and Delmer just been baptized and saved. I guess I'm the only one that remains unaffiliated.
This ain't no laughing matter, Everett.
Ou comme le chante par exemple Colter Wall dans sa chanson The Devil Wears a Suit and Tie.
And he said, I know you, young man. I know you by the state of your hands. You're a six-string picker, just as I am. Let me learn you some, I know a few turns to make all the girls dance. Don't you know the devil wears a suit and tie? I saw him driving down the 61 in early July.
Deux chansons traditionnelles étaient par ailleurs devenues des hymnes des deux principaux mouvements militants associés à ce groupe d'artistes de folk. Celle-ci était d'abord We Shall Overcome, rendue célèbre notamment par l'interprétation qu'en a faite Joan Baez, ainsi que Last Night I Had the Strangest Dream, qui fait écho par son titre au discours évidemment du révérend Martin Luther King, I Have a Dream.
Last night I had the strangest dream I've ever had before. I dreamed the world had all agreed to put an end to war.
Alors je vous parlais plutôt de Bleecker Street, rue mythique qui est passée dans le langage commun et qui fait une apparition dans plusieurs chansons de l'époque. Eh bien, elle n'est pas la seule, cette rue. En l'espace de 5 blocs, vous savez, ces pâtés de maison, comme on les appelle aux Amériques, on trouve des bars rendus célèbres par les concerts qui y furent donnés. Entre autres, on a le Purple Onion, le Night Owl Café, le Café Figaro, et j'en passe et des meilleurs. Et puis, sans doute, peut-être le plus célèbre d'entre eux, le Girds Folk City. Dans les Mémoires de Rotolo, le livre dont je vous parle aujourd'hui, Suze évoque dès la page 10 le Folk City en ces termes. C'est là que j'ai vu Bob Dylan pour la première fois, au Folk City, le restaurant, bar, salle de concert italien, à l'intersection de la rue Mercer et de West 4th, à un pâté de maisons de Broadway et du Washington Square Park. Bob accompagnait à l'époque plusieurs musiciens, à l'harmonica, et puis il jouait en duo avec un autre musicien folk, Mark Spolstra, avant de jouer ses propres chansons. Leur répertoire à eux deux contenait principalement des chansons de Woody Guthrie. Alors, ça me permet de faire une petite parenthèse sur Woody Guthrie, qui est considéré comme un des pères fondateurs de la folk américaine. C'est un auteur-compositeur américain, né en 1912, qui connaît en grandissant ce qu'on appelle la Grande Dépression aux États-Unis. J'en ai déjà parlé. Vous savez, suite à l'effondrement boursier de 1929, le jeudi noir, le pays et surtout les travailleurs en bas de l'échelle entrent dans une profonde détresse. Celle-ci se manifeste de bien des façons. Et l'une de ces incarnations, eh bien, c'est le mouvement migratoire dit des Hokies, qui en fait est une énorme vague venue de l'est du territoire, l'Oklahoma, de gens venant chercher à l'ouest de l'emploi, de l'argent, une vie tout simplement. Une des odyssées Hokies les plus connues, c'est celle de la famille Joad dans Les raisins de la colère de John Steinbeck, incidemment un de mes romans préférés, dans lequel on suit cette famille originaire de l'Oklahoma, donc poussée par la pauvreté et la faim, à entreprendre le voyage vers l'ouest américain, notamment vers l'état de la Californie, plein de promesses à l'époque. Woody se fait rapidement le porte-parole de ces voyageurs, et plus largement de ceux qu'on appelle les hobos, c'est quelques 25% de la population qui est mise au chômage après la crise. Ils vont de petit job en petit job, là où le vent de la nécessité les mène. Dans des chansons comme « Do Re Mi », Woody dénonce l'illusoire terre promise californienne qui n'offre finalement pas aux pauvres gens plus que le reste du territoire ne leur en propose. Le jeu de mots fonctionne mieux en anglais, puisque la note « do » se prononce « do », c'est-à-dire « argent » en langage familier américain. Et Woody entonne dans son refrain « La Californie, c'est le paradis, sauf pour ceux qui n'ont pas de Do Re Mi ». Comprenez, rien ne sert de courir, les pauvres ont toujours tort.
Now the police at the port of entry say you're number 14,000 for today. Oh, if you ain't got the do re mi, folks, you ain't got the do re mi. Why, you better go back to beautiful Texas, Oklahoma, Kansas, Georgia, Tennessee. California is a garden of Eden, a paradise to live in or see. But believe it or not, you won't find it so hot if you ain't got the do-re-mi.
Woody est en fait ce que l'on peut appeler un chanteur engagé, un chanteur qui défend la cause des travailleurs, s'oppose aux milices d'entreprise, comme le faisait le père de Suze Rotolo, ces forces souvent violentes, qui sont engagées par le patronat pour saper toute velléité d'amélioration sociale. Et lui, il affiche fièrement ses convictions anarchistes. C'est un homme intelligent qui, je l'ai déjà dit, a bien conscience que le progrès social, celui qu'il appelle de ses vœux, eh bien il passera en partie par la musique, par les mots, par le pouvoir de la représentation. Il écrit donc sur sa guitare « Cette machine tue les fascistes ». Plus qu'un clin d'œil à ses convictions politiques, il s'agit, je pense, d'une revendication du pouvoir de l'art. C'est pas une guitare, ni un homme seul qui fera du mal aux oppresseurs, non, mais peut-être tout un public qui sera touché par les chansons qu'il leur jouera. Musicalement, ces chansons, à Woody, fleurent bon le début du XXe en fait, c'est-à-dire qu'elles ont ce côté répétitif, quasiment inhérent au chant traditionnel, aux racines de la folk en fait. À l'écoute, du coup, c'est parfois compliqué de distinguer ces chansons. Exemple, voici un extrait de Ship in the Sky.
A curly-headed kid with a sunshiny smile heard the roar of a plane as it sailed through the sky. To her playmates she cried with a bright twinkling eye, my daddy rides that ship in the sky.
Et maintenant un extrait de Ramblin' Round.
I go ramblin' around, my sweetheart and my parents I left in my old hometown. I'm out to do the best I can as I go ramblin' around, boys, as I go ramblin' around.
Vous l'entendez vous-même, les chansons se ressemblent un peu, mais bon, vous en conviendrez, j'espère, l'originalité n'est pas le seul critère pertinent pour juger l'art. Rotolo évoque un grand nombre de noms dans ses mémoires, de courtes anecdotes, par exemple, à propos de chanteurs et de chanteuses qu'elle a connus, comme pour honorer leur mémoire à eux et les remercier de ce qu'ils lui ont transmis. Les pages 120 à 130 de son livre contiennent des morceaux de vie de Judy Collins, de José Feliciano et de personnages mythiques de Greenwich Village comme Maurice ou The Flower Lady. Elle conclut à la fin par ces mots. Il y a eu un nombre incalculable de personnes talentueuses venus pratiquer leur forme d'art à Greenwich Village pendant cette période, la Renaissance des années 60. Le but n'était pas toujours de devenir une star. Beaucoup faisaient seulement ce qu'ils aimaient, et certains devenaient célèbres en conséquence. D'autres parvenaient à en vivre, tout simplement. Bien sûr, aussi, certains se perdaient en chemin et se brûlaient les ailes.
I was never one for singing. What I really feel.
to slow, they go like the last light of the sun, all in a blaze. And all you see is glory. Hey, but it gets lonely there when there's no one here to share. We can shake it away. People lust for fame like athletes in a game. We break our collarbones and come up swinging. Some of us are downed, some of us are crowned, and some are lost and never found. But most have seen it all. They live their lives in sad cafes and music halls. They always come up singing. Some make it when they're young, before the world has done its dirty job. And later on, someone will say, "You've had your day, now you must make way." Forgetting what you know too well, that the ones who gave the crown have been let down. You try to make amends without defending, perhaps pretending you never saw the eyes of grown men of 25 that follow as you walk and ask for autographs or kiss you on the cheek. And you never can believe they really loved you. Some make it when they're old. Perhaps they have a soul they're not afraid to bear. Or perhaps there's nothing there.
Je finirai l'émission là-dessus et vous invite à aller lire les mémoires de Suzanne Rotolo dont je vous ai parlé aujourd'hui, qui s'appelle donc A Freewheeling Time en anglais et Le Temps des Possibles en français. C'est un livre magnifique avec des extraits de journal intime de l'époque de Suzanne qui sont toujours d'une très grande sensibilité et je trouve d'une très grande intelligence. Et donc je vous invite à aller lire le livre et en attendant, nous, on se retrouve le mois prochain pour le 4e épisode déjà de la 2e saison de Secret Livré et je vous dis à bientôt sur Radio Campus Paris.